Nous voulons pour un moment nous lever et nous tenir pour la prière. Nous courbons nos têtes. Notre bien-aimé, plein de grâce, Père Céleste, nous sommes réellement un peuple privilégié ce soir, aujourd'hui, car nous pouvons venir et regarder dans ta gloire et ta face et t'appeler notre Père, sachant que nous sommes passés de la mort à la vie. Car le Saint-Esprit nous donne le témoignage que nous sommes fils et filles de Dieu. Et il est notre témoin que nous avons dépassé la frontière. Car les choses du monde que nous aimions sont mortes. Et nous sommes ressuscités avec Christ et assis avec Christ dans les lieux célestes. Et nous nous réjouissons dans sa présence, de sa présence. Comme nous te remercions pour cela, ô Seigneur. Ce soir, en cette occasion, nous te demandons que tu puisses d'une manière, que tu puisses nous bénir d'une manière puissante. Bénis cette petite église ici que nous aimons. Et cette grande communion et cet amour que nous avons pour elle et le pasteur. Et pour tous les membres. Et pour tous ceux qui, ici, avec nous, ont communion dans cette réunion. Nous te demandons, Père Céleste, que ce soit un soir particulier et que nous puissions ne pas, que nous puissions vraiment nous rappeler de cette présence, de ta présence parmi nous. Que ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur Jésus, en tant que leur sauveur personnel, puissent t'expérimenter aujourd'hui et te trouver. Tu es celui qui va dans le désert pour chercher la brebis de ses sangs qui s'est perdue. Que la miséricorde soit dans le camp. Et nous te demandons tout cela dans le nom prêché du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est tellement merveilleux ici d'être dans cette église ce soir. D'avoir cette belle communion et je me suis réjoui tout le temps en ce qui concerne toutes ces choses précieuses de hier. J'ai regardé la réunion et j'ai reconnu des visages de personnes que j'ai déjà rencontrées, aussi que je connais des temps passés et je dois, comme l'habitude, me dépêcher de venir ici. Beaucoup hier soir étaient là que j'ai reconnu d'autres réunions. Et hier soir, je disais à ma femme, qu'est-ce que ce sera quand nous serons arrivés de l'autre côté? Là-bas, nous nous tiendrons et nous dirons, ici, voilà le frère tel et tel. Est-ce que cela ne serait pas un temps merveilleux? Nous regardons à ce temps et bientôt, ce sera. Je ne sais pas quand, mais je sais que ce sera un jour glorieux. Après que Jean avait vu les chose glorieuse et la gloire de Dieu là-bas dans l'Apocalypse, il a dit, viens Seigneur Jésus. Il voyait que ça avait été glorieux. À peu près, il y a 2 semaines d'ici, j'étais à Kingston, Jamaïque, et beaucoup pensaient et pensent encore que les visions sont montrées tellement sur la plateforme. Ça, ce n'est pas... C'est très loin de la vérité. Partout, ces visions sont montrées. Et pas une seule fois, une vision a été fausse. Pas une seule fois. Et les hommes d'affaires chrétiens du plein évangile, j'étais là-bas, parmi eux en visite, dans un ranch, donc. Et nous avions eu deux soirs de prédication de l'évangile. Nous avons été connus avec les réunions. Nous avons ressenti que l'esprit est parmi eux. Et ensuite, j'ai pensé que le temps serait venu pour prier pour les malades. Dans la prochaine réunion. Et c'est ainsi que cela s'est passé aussi. Et ensuite, nous sommes aller dans la salle à manger, dans l'hôtel dans lequel nous étions. Ici, nous appellerions cela un bar, comme un bar. Mais c'était comme dans le style européen. On payait pour la nourriture et pour l'hôtel, pour la chambre à coucher. Et tous étaient venus pour le petit déjeuner, comme c'est l'habitude chez les hommes d'affaires chrétiens. Ils viennent, ils se réunissent pour le petit déjeuner et ils ont leur réunion en même temps. Et il y a un qui a posé la question, mais ces visions-là, elles sont vraiment merveilleuses. Est-ce que ce ne serait pas merveilleux si elles pouvaient quelque part être montrées? Et j'ai dit, mais bien sûr que cela peut se passer, mais par cela, je disais, personne ne sera guéri. Vous voyez, j'ai toujours demandé, est-ce que cela vous aidera à croire pour que vous puissiez être guéri? Car guéri, Jésus-Christ vous a déjà fait. Il l'a déjà fait. C'est seulement quelque chose que Dieu a ajouté, une bénédiction qu'il a promis, une confirmation dans ces derniers temps, dans ces derniers jours. Nous allons peut-être encore plus tard venir à parler de ça. Mais il vous a déjà guéri il y a 2000 années d'ici. Et nous étions assis donc à table, à ce petit déjeuner, et je disais ici, le Saint-Esprit est maintenant présent. Vous tous, vous connaissez le frère Demet Shikeri, l'un de mes profonds amis, Arkenbry et tous les autres, le frère Samor, le président et le vice-président du plein évangile. Et je disais, mais ce jeune qui vient ici est malade. Et je lui ai dit ce qu'il a, tu as des douleurs de cœur, et je lui ai dit, ça, ta femme est croyante. Et je lui ai dit, tu crois, mais tu crains. Et je lui ai dit, qui est-ce qu'il est, son nom, d'où il vient, et tout de lui. Et il a presque fait laisser tomber la nourriture qu'il venait nous apporter. C'était le garçon de service. Et il a dit, mais c'est vrai exactement tout ce qu'il a dit. Et j'ai dit, mais ce n'est pas moi qui ai parlé. C'est le Saint-Esprit qui l'a révélé. Ce qui était avec lui, d'où il vient, et ce qu'il s'est passé avec sa femme, et ce qu'il a fait. Et avant de quitter la maison, etc., et de venir au travail, etc. Il s'est presque évanoui. Et il a dit, mais je ne comprends pas. Je lui ai dit, mais moi non plus. Je sais seulement que, je m'excuse, ce n'est pas le frère Shikeri, mais le frère Duplessis. Alors que j'étais arrivé là-bas, et que le frère Meurs et moi, nous parlions ensemble sur l'esprit d'amour dans l'église. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Une telle communion profonde, est-ce que ce n'est pas quelque chose de merveilleux? Ça, c'est vraiment bien. Nous parlions justement de cela. Et ensuite, il a dit, mes frères Branham, est-ce que tu ne ressens pas une résistance? J'ai dit, non, pas du tout. Non, non. J'ai dit, la grâce de Dieu est tellement puissante. Sa miséricorde, je laisse parfois épuisé, mais sa grâce, on ne peut jamais l'épuiser. Et nous parlions là-bas à table, ce matin-là, donc, ensemble. Et ensuite, il y a une jeune femme qui passait avec du linge pour l'hôtel, ou bien alors pour les chambres d'hôtel, sur sa main. Et j'ai vu la lumière sur la table, sur la femme. Et je lui ai dit, appelle cette femme ici qu'elle vienne. Et donc ils l'ont appelé. Et le Saint-Esprit a commencé à lui révéler ses problèmes. Et à lui le dire. Elle n'était pas une chrétienne. Au moins, pas du plein évangile, croyante. Elle avait, alors qu'elle était un enfant, remis une confession, enfin, fait une confession et sa mère l'avait amenée à l'église. Alors qu'elle avait 12 ans, elle a été baptisée, mais ensuite elle n'allait plus à l'église. Vous savez ce que je veux dire quand je dis qu'elle n'était pas une chrétienne. L'église ne fait pas de vous un chrétien, elle fait que vous aider à devenir chrétien et à le demeurer. Fait que vous aider à conserver votre expérience et vos expériences et votre communion avec Dieu parmi les frères et sœurs de la même foi. Et je voyais devant moi et le frère Demas m'a appelé et disait, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, s'il ne l'avait pas dit à ce moment-là. Et je disais, ainsi dit le Seigneur. Quelqu'un qui est très proche de moi est en train de mourir. Et ce sera un jeune homme qui crache du sang, du sang. Et j'ai demandé, mais où est Billy? Beaucoup connaissent mon fils Billy Paul. Et sa mère était morte alors qu'il était encore un bébé. Et j'ai pris soin de lui. Et la nuit, nous n'avions pas assez de charbon pour faire en sorte que pendant l'hiver, donc le chauffage chauffe toute la nuit. Alors, j'ai pris le biberon et je l'ai gardé sous mes aisselles et ainsi le conserver chaud pour que quand il pleure, je puisse lui donner à boire. Et ma femme me disait, sois pour lui un vrai ami et occupe-toi de lui avant qu'elle parte, elle me l'a dit. Et c'est ainsi que je me suis toujours occupé de lui et lui, il a gardé le contact avec moi. Et c'est ainsi que Billy allait directement au jardin des espérances, appelé comme ça, pour faire des photos. Et parfois, et il y a des choses qui disent quelque chose, les visions disent quelque chose, mais nous ne savons pas encore la signification et qui est-ce que cela concerne et ce que ça veut dire. Comme les prophètes de la Bible, ils écrivaient, mais ils ne savaient même pas encore quand et ce que ce sera. Et le frère Chikérien me demandait, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qui va se passer? Je lui ai dit, mais je ne le sais pas. Mais je voyais quelqu'un dont ses dents avaient été enlevées et que cette personne allait mourir et que je voyais quelqu'un d'autre comme un jeune homme qui ressemblait à un jeune homme. Et alors je disais, mais il ne peut pas mourir, il n'est pas encore prêt. Et ensuite, je me sentis conduit à aller en Jamaïque, mais pas à Porto Rico. Et vous savez, c'était le même endroit, ou bien alors le même temps quand l'avion était tombé et avait été détruit en 1000 morceaux en Jamaïque, et que tous avaient perdu leur vie. Et c'est ainsi que on a un peu repoussé le voyage. Et ensuite, un avion nous a pris et pour Porto Rico. Billy disait, papa, es-tu sûr que nous devons entreprendre ce voyage? Je lui ai dit, les hommes d'affaires chrétiens ont préparé ces réunions, je dois partir, je n'ai pas d'autre choix. Je dois être ces deux soirs là-bas. Il a dit, est-ce que tu penses à la vision? Et ensuite, 3 jours plus tard, je me suis tenu dans un jardin. Et je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi beau auparavant. Et Porto Rico, ça je dois réellement le dire, est l'un des endroits les plus beaux. Et le frère Soffman a pris des photos là-bas. Vous avez ici très beau à Phoenix et à Los Angeles, très beau à Miami. Mais il n'y a pas de comparaison avec Porto Rico. Jamais j'ai vu un tel paysage comme là-bas. Des jardins, c'est merveilleux. Et c'était pour moi comme le ciel. Et le frère Soffman me disait, mais est-ce que le ciel ne sera pas semblable comme cet endroit ici? Et je lui ai dit, oh, on ne peut pas comparer. Et je lui ai dit, ça ici, tout cela passera. Si beau que c'est, il y a toujours malgré tout, il n'y a pas de paix dans cet endroit. Mais là-bas, ce sera beau, mais il y aura aussi la paix. Et là-bas, ce ne sont pas des animaux qui iront dans le parc. Là-bas, ce sont les anges qui se promèneront dans les parcs. Et là-bas, nous aurons communion les uns avec les autres. Et alors, j'ai vu subitement mon père, mon papa et mon beau-père et ma belle-mère passer. Et c'était justement le moment où ma belle-mère donc fut morte. Et 2 jours plus tard, où nous sommes arrivés à Miami, et que nous avons appelé à la maison, j'ai demandé ce qui s'était passé. Et donc, il s'agissait qu'il a été dit que oui, la belle-mère est morte. Et justement, elle est morte sans avoir eu aucune dent dans la bouche. Elle avait perdu toutes ses dents. Et comme je l'avais vu en vision, et c'est son fils qui avait subitement reçu quelque chose et qui a craché du sang et était en train de mourir. Et le frère Chikeria me disait, mais frère Branham, rien m'a si touché alors que tu te tenais là-bas et que tu as dit ce qui allait arriver à l'avance. Et il disait, je crois maintenant que le ministère commence à agir puissamment. Que cela soit ainsi. Que ici à Phoenix, quelque chose se passe. Par laquelle chacun soit inspiré et que le Saint-Esprit puisse venir parmi nous. Et que cela puisse produire en sorte que nous puissions revêtir encore plus fermement les armures de Dieu et aller de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne veux pas vous retenir longtemps. Certains doivent rester debout. Vous êtes vraiment une réunion agréable. J'aimerais rester tout le soir ici. Mais je ne vais pas pouvoir le faire. Je le pense déjà. Hier soir, c'est ainsi que je le pense, vous avez pensé que je voulais rester ici. Et parfois, je prêche chez moi à la maison de 9h30, bien de 10h, ou bien de 10h30, vous voyez, écouter, agir, écouter, comprendre et agir. Je voudrais un jour parler de ces 3 expressions. Un soir, le Saint-Esprit avait presque parlé avec moi de traiter ce sujet. Et j'ai déjà eu à parler de cela dans l'église. Peut-être que les cassettes sont maintenant allumées pour l'enregistrement. Laissons-nous ouvrir les Bibles et aller dans le 7e chapitre de Matthieu. Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi. Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette mer. Elle n'est point tombée contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Que le Seigneur puisse réellement accompagner, ajouter à sa parole la bénédiction. Je voudrais pour quelques minutes parler de ce sujet. La tempête qui arrive. Et je fais confiance à Dieu que nous soyons capables de nous mettre à la disposition du Seigneur, du Saint-Esprit d'une manière. Car chacun sait que je ne suis pas un prédicateur. Chacun le sait. Ici, il y a des prédicateurs derrière moi, assis sur la plateforme. Moi, je n'ai pas l'instruction pour être un prédicateur. Mais dans mon chemin, dans ma manière âgée, vieille et lente, le Seigneur m'a donné autre chose à faire. Mais j'aime utiliser le temps, prendre le temps pour expliquer et dire ce que j'ai reçu du Seigneur, ce que je sais du Seigneur, et partager avec d'autres sa bonté pour les aider. Et c'est ainsi que ce soir, nous parlons de ce de cette tempête qui va venir. Et je vais sûrement pas trouver les paroles, les mots adéquats pour exprimer ce que je veux dire. J'espère que le Saint-Esprit le révélera à chacun. Jésus ici parle d'une tempête qui atteindra chaque homme, chaque femme, un jour. Il n'y a pas une autre possibilité d'en échapper. La tempête va vous rencontrer quelque part et vous atteindre. Et maintenant, il s'agit de savoir quel fondement vous avez. Est-ce que votre maison pourra résister à cette tempête, oui ou non? Beaucoup de vies ont été sauvées parce que on avait pris des préparations pour la tempête. Ou bien alors contre la tempête. Et beaucoup de vies ont été perdues parce que justement on n'avait pas pris soin de se préparer et on n'avait pas accepté l'avertissement de la tempête qui allait venir. On n'a pas pris au sérieux l'avertissement de la tempête qui va venir. Il n'y a pas longtemps, en arrière, il y a une histoire qui m'a été racontée. Peut-être que je l'ai même déjà racontée ou bien lue dans les journaux. D'une région qui est en Floride et là-bas, il y a beaucoup de vent, de tempêtes. Et ils viennent par la mer et ils frappent des maisons, des blocs de maisons et des bâtiments. Et il m'a même été dit que les prophètes de tempêtes, du temps, donc la météo, observent justement de telles tempêtes. Et que s'ils peuvent déjà remarquer que la tempête approche et que le temps se change, alors ils annoncent cela et ils annoncent à la population de quel côté cette tempête-là va venir. Car ils ont pendant toute leur vie étudié et ils ont utilisé des instruments, la science, que la science a mis à leur disposition pour reconnaître justement et pour bien en avance avertir. Et ils savent pour savoir quelle vitesse le vent a et comment est-ce qu'il se tourne et comment est-ce qu'il se dirige, et etc. Et donc, qu'est-ce qui peut être fait à l'avance, etc. pour échapper à cette tempête. Je pourrais ici faire un stop, m'arrêter et prêcher pendant des heures seulement sur ça. Que il faut un vent plus fort. Il faut qu'un vent plus fort arrive, un vent plus grand, pour pouvoir changer le cours de cette tempête. C'est encore aujourd'hui la même chose. Nous savons qu'il y a une tempête qui s'approche. Et le seul vent qui peut changer le cours de cette tempête, c'est ce vent impétueux du ciel qui, le jour de la Pentecôte, a soufflé. Il m'a été dit qu'il y a des personnes qui maintenant ici sont dans la ville qui parlent contre le communisme. Et peut-être même qu'ils devraient le faire, mais de parler seulement contre le communisme, ça ne sert à personne. Nous devons comprendre et savoir comment est-ce que la chose doit être utilisée. Comment s'y prendre? Il y a seulement une seule chose qui peut changer le cours de cette tempête. Et ça, c'est quelque chose qui doit être plus... Donc, encore une tempête, ou bien alors un vent qui est plus fort que ce torrent, que cette tempête, pour pouvoir changer son cours. Et ces spécialistes de la météo en Floride, ils sont très exacts avec leurs prophéties, avec leurs annonces. Ils sont établis justement pour cet objectif là-bas, pour avertir le peuple, la population. Et j'ai même lu, ou bien alors, tel que je l'ai dit, je crois que c'était dans le journal, concernant une tempête qui avait frappé depuis des années, qui était venue sur la Floride et sur les régions là-bas, et toute cette population dans cette région a été avertie à l'avance. Et là, il y avait un voisin qui était toujours en contact avec la radio pour entendre quand est-ce que la tempête apparaîtra. Il était un chrétien très connu. Et quand ce typhoon là arrivait, ce vent appelé comme ça, qui ravageait les arbres et tout ça, bien sûr que tous se sont réfugiés. Et alors, il a pensé à son voisin qui avait une ferme de mine, une mine. Et il a construit là aussi une ferme où les canards et tout ça sont. Il avait une mine et aussi il avait construit une ferme. Et ils ont travaillé toute leur vie pour avoir cela et ainsi gagner leur vie par cette ferme et cette mine. Et il avait entendu cette nouvelle à la radio. Il est rapidement allé à son voisin et il lui a dit, écoute, prends tous tes canards et tes poules, tes poulets et mets-les dans un bâtiment construit contre les tempêtes. Car il y a un typhoon qui va venir. Et ce vent-là va ravager tout ce qui n'est pas ferme. Et le voisin s'est tenu là, l'a regardé et s'est moqué de lui. Et a dit, quelle idiotie. Moi, j'ai entendu souvent ces annonces-là de la météo et jamais rien s'est passé. Et ce voisin chrétien était tellement en colère, il a dit, mais qu'est-ce qui va se passer alors si ça arrive réellement un jour? On entend toujours de nouveau. J'ai entendu et on dit ceci et cela va se passer et ça ne s'est pas passé. Mais un jour, ça va se passer. Et il est sage de prendre chaque avertissement au sérieux. Mais cet homme disait, je n'ai même pas le temps pour faire une telle idiotie. Depuis longtemps, assez longtemps, j'ai cette ferme de canards et tout ça, et j'ai pas le temps de faire de telles préparations. Et le voisin a dit, au nom du Seigneur, écoute, et si tu ne veux pas écouter, au moins que... Alors c'est ainsi que, si tu le veux, donc tu vas perdre toute ta ferme par ce vent, par cette tempête. Et alors il a dit, mais au moins laisse venir ta famille pour que je leur dise aussi cette nouvelle. Alors il a dit, mes enfants, je les ai éduqués à ne pas se laisser comme ça, effrayés par des choses que quelqu'un comme ça leur raconte. Je leur ai dit qu'ils puissent vivre comme moi je vis. Et ma femme m'écoute. Tu n'as pas besoin de lui dire quelque chose. Elle connaît aussi les choses mieux que toi. Et elle m'écoute, je suis ici le chef dans la famille. Et je ne veux pas que mes enfants soient effrayés par de telles idioties. Et le voisin, donc, est parti et est reparti à la maison. Et subitement, vraiment subitement, déjà les nuages étaient là avant même qu'on puisse le saisir. C'est comme ça que les jugements apparaissent. D'une manière que ça surprend. Ils sont tout de suite là, d'un moment à un autre. Vous vous demandez, mais comment est-ce qu'ils sont venus? Comment est-ce que cela a pu venir si rapidement? Et cet homme qui voulait maudire Dieu et blasphémer a dit, mais comment est-ce que tu peux oser venir à moi et me dire de telles choses? C'est ainsi que toute sa ferme en quelques moments a été ravagée. Je vous dis que ça sert à quelque chose de prendre des avertissements au sérieux. Oh, peut-être que vous pourriez vous moquer du messager. Vous pouvez même lui prendre sa vie, mais vous ne pouvez pas tuer le message. Il continuera à être prêché de la même manière. Le message de Dieu est éternel. Sa parole ne manquera jamais. Elle est apportée encore aujourd'hui telle qu'elle a été révélée, telle qu'elle a été reçue. Paul avait de la réussite. Il voyait comment est-ce que Étienne avait été lapidé. Et ensuite, son temps est arrivé où il a dû se donner à Christ. Et Étienne avait dit à l'époque, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme à la droite de Dieu. Quelque chose avait saisi. Ce n'était pas le messager, mais le message qui a saisi Paul. Ce n'est pas le messager, mais c'est le message qui a saisi Paul. Vous voyez? Et c'est ainsi que quand la tempête a frappé, ça n'a pas seulement ravagé les canards et les poules et tout ça, mais aussi le fermier. Et sa femme a été en colère et ils habitaient pas loin d'un lac. Et le vent a produit des vagues dans le lac. Et ça a été ce qui était terrible justement. Et les barques et tous ont été remués et renversés et ont coulé. Les tempêtes arrivent et commettent des tourbillons autour de nous. La mère savait ici, il n'y a plus d'espérance. Elle voulait seulement encore sauver ses enfants. La mère, là, il n'y avait plus d'espoir pour la ferme. Et elle est allée vite chercher les enfants. Elle les a amenés dans un bâtiment sûr. Et elle voulait courir vite à la maison pour être réfugiée. Ils ont essayé de se réfugier. Mais, parce qu'ils n'ont pas prêté l'oreille à l'avertissement, ils se sont fait des reproches. Mais dans ce bâtiment dans lequel ils étaient allés, des serpents sont entrés qui ont été donc emportés par les vagues. Et c'est ainsi qu'ils ont été mordus et ils sont morts. Et ils sont morts d'une mort terrible. Et c'était vraiment terrible. C'était aussi une inondation. Et alors, plus tard, on a retrouvé la femme avec ses enfants là-bas, mort. Ça sert à quelque chose de prendre au sérieux un avertissement, des avertissements. La première chose qu'on doit faire après l'avertissement, avant qu'un avertissement puisse être apporté, il faut que d'abord une préparation pour le refuge soit faite. Sinon, un avertissement n'a pas de sens. Un avertissement est seulement une voix de quelqu'un qui aussi peut préparer le refuge pour ceux qui acceptent l'avertissement. Il faut qu'il y ait une préparation d'abord qui soit faite avant qu'on apporte l'avertissement. Et si la préparation a été faite pour le refuge, alors l'avertissement peut être apporté. Alors vous pouvez être appelé et prendre votre décision. Est-ce que vous voulez prêter l'oreille à cet avertissement, oui ou non? Si vous ne voulez pas prêter l'oreille, si vous ne voulez pas écouter, alors c'est votre problème. Si vous écoutez, alors c'est en ordre. Alors vous êtes sauvé. Dieu a les mêmes méthodes. Nous sommes à l'œuvre dans la méthode de Dieu. Dieu, dans les temps passés, alors que le monde du déluge était là et que le monde était dans le péché, était mauvais, l'état du monde, du temps de Noé, de manière que Dieu ne pouvait pas continuer encore comme ça à regarder tout ce qui se passait sur terre. Dieu est un Dieu juste. Et il a des lois. Et quand ces lois sont transgressées et brisées, chaque loi qui est brisée et qui n'a pas de condamnation n'est pas une loi. Vous ne pouvez pas transgresser la loi de Dieu sans devoir payer pour ça. Quelque part, vous allez devoir le faire. La Bible le dit. Soyez certains que vos péchés vont vous trouver. Qu'est-ce que c'est que le péché? Ici, je voudrais un peu m'arrêter pour un moment. Beaucoup pensent que fumer la cigarette, c'est péché. D'autres pensent mentir, c'est péché. C'est le péché. L'adultère, c'est le péché. C'est le péché. Tout cela, ce sont des attributs de l'incrédulité. Vous faites ces choses parce que vous ne croyez pas. Vous êtes incroyant. C'est peut-être raison que vous pouvez mentir et faire toutes ces choses. Il y a deux choses. Ou alors, vous êtes croyant, ou alors vous n'êtes pas croyant. Si vous êtes croyant, vous ne faites pas ces choses. Si vous les faites, alors je ne sais pas quelle sorte de confession vous avez. Et si vous le faites, ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas en vous. C'est ce que la Bible le dit. La Bible dit. Il y a trop de paroles sans posséder ce qu'on dit. Il y a trop de confessions sans. Il y a trop qui en parlent sans le vivre. Je pense même qu'on prépare trop nos prédications et que nous-mêmes, on ne les vit pas assez. Si chacun de nous vivait une prédication, alors tous nous serions des prédicateurs. Et moi, je préfère de toutes manières quelqu'un qui me vive une prédication que de me la porter. Et la Bible dit que vous êtes une lettre lue de tous les hommes. C'est ainsi que c'est mieux de vivre la prédication. Le péché, c'est parce que vous ne croyez pas. Est-ce que Jésus n'a-t-il pas dit dans les jours de sa chair, ici sur terre, est-ce que les hommes qui n'ont pas menti, est-ce que ceux qui n'avaient jamais volé, qui n'avaient jamais menti, et ceux qui n'avaient jamais commis d'adultère, n'a-t-il pas dit, c'était des hommes justes, des prédicateurs, c'était des prédicateurs, c'était des sacrificateurs. Il leur disait, vous êtes de votre père le diable. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru au Fils de Dieu. Celui qui ne croit pas, comme c'est écrit, il est déjà condamné. Il y a des temps passés, j'ai fait un appel à l'autel. J'aime Jean 5, verset 24-25, celui qui croit en moi. Et à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et est passé de la mort à la vie. Celui qui croit. Quelqu'un dirait, mais ça c'est très facile. Non, ça c'est très profond. Car si vous croyez, vous voyez, personne peut dire que Jésus est le Seigneur. Si seulement par le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, alors vous avez la vie éternelle. C'est l'Esprit qui crée la vie. C'est la vie de l'Esprit. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et c'est ainsi qu'il ne passera, il ne viendra pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Préparé. Et Dieu a vu la méchanceté des hommes du temps de Noé. Et il a vu aussi cette génération pervertie et adultère. Et il a dit, je ne peux pas continuer à supporter cela. Oh, ce monde pécheur. Il n'y a pas longtemps, je m'étais arrêté sur mon chemin alors que j'étais en train de faire des achats avec ma femme. Et nous étions en train de parler de une certaine jeune dame dans notre ville. C'était vraiment un temps très froid. Et elle avait un manteau qui était bien, mais son vêtement était beaucoup trop serré et trop court. Et la première neige était déjà tombée. Et ma femme disait, mais tu sais, cette femme-là n'est pas habillée de manière agréable. C'est pas normal. Je lui ai dit, mais ça c'est sûr. Et elle disait, mais elle n'est pas tout à fait normale de s'habiller comme ça. Et ma femme disait, est-ce que tu ne sais pas qu'elle va à une école supérieure? Je dis, mais cela est possible, mais cela ne veut pas dire qu'elle est normale et que tout est en ordre avec elle. Non, je lui ai dit non. Et avec ses pensées, elle ne peut pas être en ordre. Il y a quelque chose qui ne peut pas être normal. Quand nous allons en Allemagne, j'étais il n'y a pas longtemps en Allemagne dans une grande réunion où le Seigneur nous avait par soir accordé des milliers d'âmes. Et j'étais tellement étonné en un soir alors que je revenais de la réunion. Et nous étions allés quelque part pour manger, nous avions été invités. Et c'était à la fin de toutes les réunions, donc. Et tous les croyants étaient assis et buvaient de la bière. L'Amérique, le Canada, l'Angleterre, ce sont les seules nations que je connais qui ne permettent pas aux croyants de boire de la bière. Vous voyez? Mais les autres ne se saoulent pas. C'est seulement nous les Américains qui nous saoulons. Je n'ai pas bu la bière. Après quelques moments, j'ai entendu déjà les croyants parler l'un avec l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Pourquoi est-ce qu'il ne boit pas de bière? Est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas assez bien pour lui, bonne pour lui, pas assez de bonne qualité? Et le docteur Gokunbul était assis directement à côté de moi, il était mon traducteur. Et je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce qu'ils murmurent tous? Et il m'a dit, mais il s'étonne, pourquoi est-ce que tu ne bois pas? Bon, je sais, il est écrit avec les Romains, soyez un Romain, mais je lui ai dit, dis-leur la chose suivante, je ne les condamne pas, mais depuis ma naissance, je suis sous le vœu d'un Nazaréen et je n'ai pas le droit de boire d'alcool. Et ils l'ont compris et ils ont continué à boire. Et en Italie, c'était la même chose. Et dans d'autres régions de la terre, quand vous allez dans les différentes nations, vous trouvez l'esprit de la nation dans ces nations. Vous voyez, le Saint-Esprit m'a donné l'avertissement. Autrefois, il m'a dit en Finlande, ne va pas dans ce lac appelé Wine. Je ne savais pas ce qui se faisait là-bas. Mais vous savez, là-bas, ils ont le sauna, etc. Et plus tard, il m'a été même dit que ce n'est pas seulement qu'ils ont du sauna, mais ils ont aussi des femmes là-bas, dans le sauna, qui massent les hommes, etc. Mais pas seulement comme ça, massées simplement à la surface, mais elles sont aussi comme ça, habillées de manière très légère. Et ce frère-là, appelé tel et tel, allait là-bas, et tous les croyants aussi allaient au sauna là-bas, et tous vont dans ce sauna. Et il me disait, mais écoute, c'est la même chose comme avec vos infirmières en Amérique. C'est ainsi que sont aussi ces femmes là-bas dans ce sauna. Ils font aussi cela tous les jours. J'ai dit, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Non, cela, c'est pas normal. Vous voyez, beaucoup des gens merveilleux, des gens justes et corrects. Des croyants, ils ont rien pensé que cela ne serait pas en ordre. C'est l'esprit de la nation qui est en eux. Partout, dans chaque nation, vous trouvez un certain esprit. Mais si vous allez en Amérique, alors vous avez le pire des esprits. Ici, c'est le pire de tous. Et nous continuons à parler et il disait, mais ces gens-là vont tous à l'église. Ce sont des gens qui vont tous à l'église. Et je pensais, mais pourquoi est-ce que alors leur conscience n'est pas reprise et condamnée par cela? J'ai dit, mais écoute, ce sont des Américains, disait ma femme. Et elle me disait, mais est-ce que nous ne sommes pas Américains? Je dis, non, nous ne sommes pas Américains. Nous faisons que vivre en Amérique, je disais à ma femme. Mais nous sommes nés d'en haut. Nous sommes nés d'en haut par le Saint-Esprit. C'est, notre maison est en haut. Ici, nous sommes que des voyageurs, des pèlerins, des étrangers sur cette terre. Ce n'est pas notre demeure permanente. Nous cherchons la ville dont Dieu est le fondateur et l'architecte est Dieu lui-même. Si vous êtes né d'en haut, alors vous avez l'Esprit de Dieu qui vient de Dieu, qui transforme votre nature. Vous voyez, tout. Ça n'a pas d'importance. Tout ce que vos parents, mais ce que quelqu'un fait, non, ça n'a pas d'importance. Ici, il s'agit de chrétiens, de la vie d'un chrétien. Les chrétiens sont nés d'en haut, nés de nouveau par le Saint-Esprit de Dieu. Vous voyez, leur esprit vient d'un autre royaume. Ils n'ont pas l'esprit de ces différentes nations dans lesquelles ils pourraient vivre. Oh, je suis tellement heureux pour cela. Nous avons déjà sur terre les habitudes du ciel. C'est tellement simple quand on se soumet et on suit la conduite du Saint-Esprit. On se laisse conduire en toutes choses par l'Esprit de Dieu. Alors, comment est-ce que vous allez vous comporter? Vous voyez, c'est ainsi que c'était. Par exemple, dans le temps de Noé, Dieu s'était mis en colère. Mais avant d'envoyer la tempête et le déluge pour détruire le monde entier, Dieu a fait une préparation d'échapper pour ceux qui voulaient être sauvés. Mais pour pouvoir être sauvé, il fallait prêter l'oreille au message, à l'avertissement. Oh, je peux voir Noé. Il se tient maintenant à la porte de l'arche et il prêche la justice. Il avait été averti et il a annoncé. Ce n'était pas beaucoup qui ont prêté l'oreille à son message. Peut-être comme aujourd'hui, ils veulent aujourd'hui être entretenus. Mais ils ne veulent pas l'évangile. Le véritable. Oh, malheur à ces évangélistes-là d'Hollywood. Qui craignent d'appeler péché, péché. Nous avons besoin de prédicateurs à l'ancienne mode qui voient quelque chose qui pourrait faire mal à l'arbre et qui n'ont pas peur de l'annoncer et de le dire et de le révéler. Qui ne sont pas en train de mettre des gants en prêchant, mais qui prêchent l'évangile de manière libre et véritable, et qui prêchent la venue du Seigneur et le jugement, et annoncent le jugement aux pécheurs, et le salut le promettent aux croyants. Ça n'a pas d'importance ce que les hommes disent là-dessus. Je vais avertir ma génération. Je veux qu'il soit averti. Je peux voir Noé là-bas à la porte de l'arche. Oh, je veux croire que ce n'était pas ainsi, mais c'était ainsi. Noé s'est tenu là. Et la seule possibilité pour être sauvé, je peux voir Moïse plus tard. Comment est-ce qu'il a appliqué le sang au linteau des portes? C'était la seule possibilité pour être gardé et conservé du jugement et de la condamnation. Le sang de l'agneau a été appliqué sur les linteaux des portes. Jésus, aujourd'hui, est la porte. Il est la porte pour le troupeau des brebis. Les prédicateurs de l'évangile se tiennent là et vous montrent la porte. Et ils croient avec toute l'assemblée et l'église et ils disent, ils demandent aux autres, venez entrer dans le refuge, réfugiez-vous. Sans doute, beaucoup se sont moqués de nous, se sont moqués de Noé. Ils ont fait des blagues sur lui. La Bible dit qu'il y avait des moqueurs du temps de Noé. Je peux les entendre parler un peu de cette manière. Noé, si tu n'as pas une meilleure prédication pour nous, nous pouvons rester à la maison. Si tu n'as pas, que si nous ne sommes pas entretenus, nous restons à la maison. L'Amérique, aujourd'hui particulièrement, le monde, l'Amérique particulièrement, ne veut pas l'évangile. Ils veulent être entretenus. Ils veulent avoir quelque chose par lequel ils puissent avoir un bon temps, être entretenus. Une musique forte, comme semblable au disco, une musique dure, forte, ou bien alors une partie, quelque chose où comme ça, ils ont du loisir, etc. Au lieu que le jugement soit prêché et que la puissance de la résurrection du Seigneur soit manifestée parmi les croyants et que l'avertissement soit donné. Mais le jugement commence justement dans la maison de Dieu, pas le disco. Jugement. Lot a été averti. Et quand les anges, quoique ils ne comprenaient pas que c'était des anges, quand ils sont allés pour apporter le message, sortez de cet endroit pécheur. Dieu avait préparé un chemin pour échapper. Sortez. Jésus disait, dès que c'était du temps de Sodome, vous voyez, quelle vie il vivait, il menait. Et Jésus a comparé ce temps d'autrefois avec le temps d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est dit aussi de recevoir la puissance pour échapper. Qu'est-ce que c'était? Son peuple s'est moqué de lui et faisait des blagues sur lui. Et le péché de la ville a commis, a affligé son âme. C'est écrit dans la Bible. Et le message des anges n'a pas eu d'effet sur eux. Mais lui, il a été appelé à sortir. Et il est écrit dans l'épître de Pierre que le péché de la ville a affligé son âme. Dieu était prêt à frapper la ville. Si Dieu laisse venir une tempête, un feu sur une ville, et qu'il refuse d'accepter l'avertissement et de sortir, ils étaient satisfaits avec leur péché, avec leur vie. Cela semble aussi être comme ça aujourd'hui. Les gens sont satisfaits de leur état. Car, sûrement, ils préfèrent avoir une nouvelle voiture. Ils veulent par jour avoir 3 repas. Ils veulent avoir un nouveau lit. Tout nouveau. Mais tout cela est bien, tout cela est en ordre. Et si nous pouvons avoir une vie agréable, etc. Mais n'oublions pas Dieu et sa parole. Vous voyez, nous prédicateurs, nous chrétiens, nous sommes toujours intéressés à avoir un programme pour que notre église soit mieux, des chaises mieux, les chaises doivent être polies et un peu plus agréables, plus à l'aise, et nous oublions le regard pour la chose essentielle, la puissance de Dieu et les choses qui doivent et se manifester par l'église de la part de Dieu et la prédication du véritable de la parole de Dieu et du jugement. L'ange n'a pas manqué d'apporter le message et de prêcher le message, même si on a essayé de le stopper, le message a continué du temps de Lot. Regardez, est-ce que vous avez observé? C'est comme si un homme dirait, je ne veux pas reconnaître que le soleil existe et brille. Je ne veux rien avoir à faire avec le soleil. Il ferme ses yeux et il va dans la cave de sa maison. Et il dit, je ne reconnais pas que le soleil existe et brille. Regardez, frère madame. Un tel homme doit sûrement ne pas être normal, n'est-ce pas? C'est ce que vous direz. Mais est-ce que c'est pas la même chose avec quelqu'un qui n'accepte pas Jésus-Christ et sa parole et qui n'est pas dans le même état? Le Saint-Esprit est plus réel et est plus une réalité que le soleil. Le soleil va s'obscurcir, mais le Saint-Esprit demeure. Il est dit de veiller donc et prier en tout temps, afin que nous puissions recevoir de la force pour échapper à toutes les choses qui arriveront. Luc 21, verset 36. Il ne s'agit pas de la lumière visible, mais de la lumière pour notre âme. La lumière de la gloire qui nous conduit et nous ramène à Dieu. Mais celui qui rejette Golgotha et qui n'accepte pas les souffrances de Jésus-Christ pour lui, il ne pourra jamais échapper le jugement qui arrive. Mais le salut est pour tous ceux qui veulent venir. Moi, je préfère être entièrement aveugle physiquement que de l'être spirituellement. Au lieu de l'être spirituellement, je préfère être aveugle physiquement. Oui, je veux voir spirituellement. Observez, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui serait faux avec une telle personne? Même si ses amis viendraient et diraient, écoute, et Jim John, ou bien comme cet homme pourrait s'appeler, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Tu n'es pas normal. Sors de cette cave. Sors de cet endroit obscur. Qu'est-ce que tu veux faire là? Dans l'obscurité. Et il se tiendrait là et il dirait, je suis satisfait là où je suis. Laissez-moi tranquille, je suis satisfait. Et vous voyez, il ne veut pas recevoir la lumière du rayon du soleil. Il ne veut pas être atteint. Il ne veut pas recevoir ce que le soleil produit, sa chaleur. Quelque chose serait faux avec cette personne. C'est la même chose avec une personne, avec un homme, avec une femme. Qui reste dans cette cave, dans l'obscurité, veulent rester dans l'obscurité et dans le péché de l'incrédulité demeurer. Et disent, le temps des miracles sont passés. La guérison divine n'existe plus. Le Saint-Esprit n'existe plus. Vous voyez, vous refusez de sortir de cette tombe du diable et de l'enfer. Vous voyez, marcher dans la lumière de l'évangile. C'est ainsi que cela vous procurera de la chaleur. Oh, comme ce serait alors agréable. Nous voyons le jugement qui approche et aussi la consolation du Saint-Esprit. Nous écoutons parler de bombes atomiques, etc. Toujours plus, toujours plus. Bon, nous avons une paix qui est plus élevé que toute pensée humaine, comme c'est écrit dans Philippe. Vous voyez, quoi qu'arrive, nous serons dans la présence directe de Jésus. Nous avons reçu la vie éternelle. Les âgés seront jeunes, les bébés seront aussi rétablis dans l'âge de la jeunesse et seront auprès du Seigneur. Oh, quelle chose glorieuse! Pensez-vous qu'un homme rejettera d'accepter au sérieux cette offre? Ça veut dire qu'il n'est pas normal, bien sûr. Il n'est pas normal. Il n'a pas tous ses sens. Bien sûr que si quelqu'un n'a pas le rayon du soleil, il va devenir malade. Même sa peau va s'abîmer. L'homme a besoin du rayon du soleil. Et c'est la même chose avec le monde aujourd'hui. Si un homme manque du rayon du soleil, il devient pâle. Et c'est la même chose avec beaucoup d'églises aujourd'hui. Nous avons été pris au piège. Nous avons en fait besoin d'une transfusion de sang. Ils sont devenus pâles. Notre santé spirituelle est pourrie. Nous avons plus de zèle véritable pour les âmes qui sont autour de nous, pour leur salut, pour qu'ils soient sauvés. Il ne s'agit pas de la connaissance, il s'agit du salut des âmes et de les avertir du jugement qui approche. Nos voisins, nos amis, celui qui vient apporter le lait, celui qui vient déposer le journal, quelqu'un que nous pourrions rencontrer de n'importe quelle manière, n'importe quelle personne avec qui nous entrons en contact, que nous puissions avoir dans le cœur de les amener à Christ. Nous sommes devenus pâles. Pâles. Nous n'osons pas sortir dans la lumière de l'évangile. Et nous n'osons pas croire à la guérison divine et à la conservation spirituelle et à la santé spirituelle. Vous voyez, ceux-là là, qui ne sortent pas, ils restent. Et dans l'Apocalypse, il est écrit que les oiseaux du ciel vont manger la chair des rois. Vous voyez, ce sont des hommes qui vont mourir quand les fléaux de Dieu frapperont et tomberont. Vous voyez, même les Égyptiens, autrefois, n'ont pas pu stopper les fléaux sur l'Égypte. Non. Seulement là-bas, à Gozen, là où le peuple d'Israël était rassemblé, c'est là-bas qu'il y avait de la lumière. C'est là-bas qu'il y avait qui était gardé. C'est là-bas que tout était bien. Vous voyez, le Saint-Esprit est aujourd'hui cet accès, est la porte. Aujourd'hui, c'est en lui que nous pouvons trouver le refuge, la sûreté. J'étais dans une assemblée, dans une église, il n'y a pas longtemps d'ici, et je regarde ici à un frère de peau noire, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vu pendant la prédication, il a toujours déjà dit oui avec sa tête. Il se réjouissait comme ça réellement sous le coup de la parole. Et cela m'a donné une pensée. Il y avait un jeune homme qui était venu dans une église, dans une assemblée, une réunion. Et dès que la réunion était terminée, il est venu à moi en courant devant. Et il a dit « Pars », donc ça veut dire oui, grand frère ou bien. Il venait du sud et il disait « Oh, je voudrais trouver le Seigneur Jésus ce soir. » Je venais d'avoir une lignée de prière, une réunion de pour prier pour les malades. Et je lui ai dit « Mais bien sûr, mon frère, je suis plus que heureux de te conduire à lui. » Et après qu'il ait consacré sa vie au Seigneur Jésus, son cœur au Seigneur Jésus, il disait, peut-être que tu vas te demander, mais pourquoi est-ce que je suis venu en courant comme ça devant toi? Et j'ai entendu que tu es dans la ville et je voulais obligatoirement te voir. Et je dois rapidement te raconter mon histoire. Tu sais, j'ai voyagé partout. Ma mère était vraiment une femme croyante. Et j'ai aussi un frère qui est religieux. Un frère. Et j'étais le plus jeune dans la famille, bien sûr. Et j'ai reçu toutes les volontés. Comme cela est avec le plus petit. J'étais un peu donc celui qui est gâté. Et je n'ai écouté personne, que ce soit ma mère ou bien qui que ce soit qui me disait, non plus aucun parent, personne, j'écoutais personne. Je voulais vivre ma propre vie, je voulais être un homme. Et en tant qu'homme, je voulais vivre. Et je pensais qu'un chrétien, c'est quelque chose, être un chrétien, c'est quelque chose pour les femmes et pour les vieux, pour les personnes âgées. Et ensuite, je suis devenu un cuisinier. Et j'ai bien maîtrisé mon métier et je voulais toujours aller vers le nord. Et un jour, j'étais de nouveau en voyage et comme ça, je suis allé de ville en ville et il y a quelqu'un là-bas, quelqu'un qui est très riche. Et je suis allé donc à sa maison. Et j'ai demandé au chef là-bas, écoute, je suis un cuisinier et j'ai besoin en ce moment d'argent. Est-ce que vous avez quelque chose à travailler pour moi? Il m'a dit, bien sûr, sûrement, viens. Nous avons une vieille femme ici, une femme de peau noire. Elle est une très bonne chef de cuisine, un bon chef de cuisine, cuisinière. Et je vais parler avec elle et peut-être que tu pourras ici pour quelques jours te loger et tu pourras un peu travailler et te gagner quelque chose et puis repartir. Et puis de toute manière, ce jeune ne voulait rien de plus. Il ne voulait rien de plus.
que ça. Et il a rencontré cette vieille femme et il a aidé 2-3 jours à la cuisine, dans la cuisine, et un soir. Donc il s'est couché dans sa tente et c'était justement la tente voisine à celle de cette vieille femme cuisinière. Et subitement, il voit il entend déjà donc comme un éclair de la tente, et il entend déjà donc le tonnerre et une tempête dehors. Et il entend dehors des voix, ce jeune homme donc. Et ces voix-là disaient: oh, nous devons nous dépêcher et aller chercher les chevaux et les mettre au refuge. Et nous mettre à l'abri rapidement, car nous ne pourrons pas sûrement rester si longtemps dehors. Et donc il a pris donc l'oreiller et il avait même peur, ce jeune homme avait eu peur, et de toute manière il a regardé dehors un peu et il entendait le tonnerre et les éclairs et la tempête, et il a entendu de leur entretien qu'une tempête terrible va venir sur cette région, et on appelle cela la tempête du nord. Et là, c'est-à-dire que vous n'avez pas le temps de faire quelque chose, vous mettre à l'abri. Il faut être très rapide. Les montagnes sont tellement hautes que quand la tempête a déjà atteint la vallée, cela a lieu en un seul coup. Et ces tonnerres, ces éclairs, déjà conduisent cette tempête. Et leur entretien a toujours été de voix plus haute, et en quelques minutes, il pensait: oh, maintenant il y a quelque chose qui est en train de se passer de terrible, qui va se passer de terrible. Et il a dit, il m'a dit, donc j'ai commencé à penser, j'espère que nous ne serons pas atteints. Car je sais que je ne suis pas prêt à aller dans l'éternité. Vous voyez, parfois vous attendez réellement trop longtemps. Et il disait, en quelques moments, la tempête a apparu et les arbres ont été remués de droite et à gauche et ballottés. Et il écoutait, et c'est ainsi que ça, les tentes ont été remuées, saccagées. Et subitement, il entend des coups à l'intérieur de la tente. Et il y a une voix qui lui a dit: fils, comment vas-tu? Veux-tu pas venir dans ma tente? J'ai allumé la lumière. Elle avait une lanterne qu'elle a allumée, une lampe, et elle l'a placée sur une caisse. Et il est entré et il a dit: Je suis effrayé à mort. Et la femme a demandé, je veux te poser une question. Il a dit: s'il te plaît, j'écoute. Elle lui a dit: es-tu prêt à rencontrer le Seigneur? Oh, alors j'ai commencé à ce moment-là réellement à avoir peur. Il a dit: non, mère, je ne le suis pas. Elle a dit: mais maintenant prépare-toi, car à chaque moment, tu peux devoir le rencontrer. Et alors ce sera trop tard si tu n'es pas prêt. Et elle disait: est-ce que tu veux maintenant te mettre à genoux avec moi pour prier? Et nous sommes mis à genoux et autour de cette caisse de savon, et il m'a dit: je dois te dire la vérité, j'avais même peur de prier, la tempête remuait tout et ravageait tout derrière, dehors, et les éclairs et les bruits de tonnerre, je pouvais même pas prier. J'étais plein d'angoisse et j'étais effrayé, mais je me suis malgré tout mis à genoux parce que la tente le voulait. Et de nouveau, il y a eu comme un théâtre de tonnerre et d'éclairs. C'était terrible. Mais j'ai appris ma leçon. Il disait: cette vieille femme sainte. Elle était heureuse et joyeuse sous sa tente comme elle pouvait l'être. Elle était pleine d'assurance et de confiance. Elle était sereine et elle parlait avec Dieu comme si elle le connaissait déjà depuis sa naissance. Elle n'a même pas eu d'inquiétude, la moindre incrétude. Et moi, j'étais terrifié à mort. J'ai seulement dit cette parole. Seigneur, si tu me laisses encore vivre, et que je trouve un endroit où il y a du repos, là, je vais venir à toi. Oui. Et il a reçu une autre chance. Peut-être que vous ne la recevrez pas. Car quand les jugements de Dieu seront déversés, il n'y aura plus de chance. Vous avez votre chance maintenant. Ceci est votre occasion maintenant. La tempête était venue sur lui. Et il me disait à moi, prédicateur, est-ce que c'est possible pour un homme comme moi que je sois sauvé? Et vous voyez, quand la mort vient, et il disait encore, oh, si je pouvais parler avec Dieu comme cette femme sainte. Et je lui ai dit, mon fils, le sang de Jésus-Christ, du Fils de Dieu, peut te ravir dans le même état dans lequel la femme était. Il était un garçon très bien habillé, alors qu'on parlait très bien habillé. Et là-bas, sur le parking, dans le parking, il s'est mis à genoux. Il avait un beau costume. Et il s'est mis à genoux là-bas dans la saleté dehors. Là où il était, tel que l'état de la rue était. Et là-bas dehors, ensemble, il a consacré sa vie à Dieu. Oh, le Seigneur est un rocher sûr dans la tempête. Vous savez, un tel rocher est quelque chose. C'est un refuge, c'est quelque chose qui donne, qui procure la paix. Si vous pouvez entrer dans la fente du rocher, vous n'avez plus besoin d'autre chose. Vous êtes caché et vous êtes en refuge. Vous êtes refugié. Vous savez, la tempête arrive. Et elle est sûre. Et le sceau est presque à sa fin. Où chaque homme, chaque femme sur terre, ou alors ils sont dans le refuge, ou alors ils ne le sont pas. Ou alors vous êtes en Christ, ou alors vous ne l'êtes pas. Ou alors vous êtes à l'intérieur, ou bien alors vous ne l'êtes pas. Vous devez prendre votre décision. Ou alors vous êtes dans le royaume de Dieu, ou alors vous ne l'êtes pas. Et le seul lieu de refuge, c'est seulement en Jésus-Christ. Il est le seul endroit, le seul qui peut procurer la vie éternelle. Personne ne peut venir au Père que par lui. Et celui qui est en lui, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Le Saint-Esprit nous donne le témoignage que nous sommes passés de la mort à la vie. Et si nous regardons dans la tombe, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Et nous savons que la tempête va, c'est vrai, venir. Et si ce soir vous repartez à la maison, faites-moi ce plaisir. N'allez pas vous coucher jusqu'à ce que vous ayez lu Apocalypse chapitre 8. Vous voyez, le jugement, les fléaux vont venir, Apocalypse 8. Et ils vont frapper la terre, des tonnerres et des éclairs. Une tempête terrible. Et les douleurs vont frapper les nations. Les hommes vont perdre leur vie. Les médecins n'auront plus, ne sauront plus quoi faire. Les maisons vont s'écrouler, etc. Mais rappelez-vous, avant que cela se passe, le scellement aura lieu. Vous voyez, d'abord le scellement. Et ensuite, il est dit, mais ceux qui ont reçu le scellement, le sceau, ne leur faites pas de mal. Vous voyez? Et le sceau de Dieu, c'est le baptême, le véritable baptême authentique du Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu avec lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Ça n'a pas d'importance. Comment est-ce que cette arche avait été remuée par la tempête? Et comment est-ce que le tonnerre et les éclairs l'ont frappé? Des milliers, des centaines tombent à droite et à gauche, comme c'est écrit dans le psaume. Mais toi, tu restes sûr si tu es en lui. Vous voyez? Le Saint-Esprit, c'est lui. Bon, dans l'Apocalypse, nous lisons du cavalier blanc et noir et rouge, etc., du cheval. Et il est dit, et ainsi il est dit, une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier. Mais ensuite il est dit, mais ne faites point de mal à mon huile et à mon vin. Je le lis dans la Bible, Apocalypse 6, verset 6, que les jugements de Dieu arrivent, où des difficultés et des catastrophes et des problèmes et des douleurs frapperont les nations. Nous avons besoin de la protection, nous avons besoin de la sûreté en Christ, dans le véritable amour fraternel et dans l'amour de Dieu qui est déversé par le Saint-Esprit dans notre cœur, par le Saint-Esprit. Donc il s'agit maintenant d'avoir le même esprit, l'esprit de Dieu déversé dans notre cœur. Nous devons nous prendre par la main et dire, nous sommes citoyens du ciel, nous nous aimons les uns les autres, nous nous tenons ensemble pour cet grand objectif pour laquelle nous avons été déterminés, que nous soyons presbytériens, baptistes ou bien toutes sortes de différentes directions. Non, nous devons nous unir, revenir à la parole de Dieu, quoi que nous soyons, tant que le sang de Jésus-Christ nous purifier de tout péché, que nous avons communion de l'esprit, les gens, c'est ce dont nous avons besoin, communion de l'esprit. Vous voyez, du temps de Noé, Dieu a pu aussi montrer même aux animaux comment est-ce qu'ils devaient se comporter, c'est-à-dire aller à l'arche. Ils ont pris au sérieux l'avertissement, ils sont venus et ils sont rentrés dans l'arche. Dans ce temps de la fin, nous voulons, dans ce temps dans lequel nous vivons, une tempête va venir. Dieu est encore le même aujourd'hui qui peut avertir et qui nous avertit. Comme dans Philippiens chapitre 1, verset 28, il aime tout ce qu'il a créé, toute la création. Il dit que nous devons, au verset 27, Philippiens 1, s'il peut même montrer à un oiseau comment se comporter, se lever et pour échapper à la perdition. A plus votre raison, aux hommes, il le dit dans Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous receviez de la puissance pour échapper tout ce qui viendra sur la surface de la terre. A plus votre raison, il a préparé pour nous une possibilité d'échapper. C'est de recevoir la même puissance. Nous voyons que le Saint-Esprit nous pousse dans notre cœur. Les tempêtes vont venir. Nous voyons l'âge des bombes atomiques. Nous voyons tous comment les nations sont en train de s'écrouler. Mais Israël se réveille. Philippiens chapitre 1, verset 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. Bien mes frères et sœurs, les temps des nations sont comptés. Revenez aux instructions de la Bible. Revenez à votre propriété. Ça, c'est le chemin. Oh, j'aime ces cantiques. Nous devons être fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Soyez remplis de cet esprit et que vos lampes brillent. Soyez remplis de l'esprit. Nous ne pourrons pas combattre si nous ne sommes pas unis. Et nous devons nous efforcer à conserver l'unité de la foi, l'unité par le lien de la paix. Éphésiens 4, nous voulons considérer ces choses. Vous efforcez de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, par le lien de la paix. Il ne doit rien avoir entre nous. Nous devons demeurer, comme le Seigneur l'a dit. Avez-vous trouvé ce lieu de refuge en Christ? Il n'y a pas deux possibilités d'échapper. Il n'y a seulement qu'une seule possibilité. Vous devez ou alors être une église. D'accord, je n'ai rien à dire contre cela. Mais si c'est seulement ce que votre vie a, une église, et que ce que vous avez n'est pas comparable à ce qui est écrit dans les Actes des apôtres, si le Saint-Esprit ne peut pas vivre de cette manière en vous et d'une manière que votre vie prouve à les mêmes œuvres que ce qui était écrit dans les Actes des apôtres et est écrit. Alors, examinez-vous vous-même. Car autrefois, si le cep produisait une branche et que ça avait été une branche de la Pentecôte, et que si ce même cep produit une autre branche, il faut que ce soit la même Pentecôte, le même fruit, et la même chose va se passer. Le même fruit, le cep, l'autre branche doit produire le même fruit. Et ça doit être de nouveau une infusion du Saint-Esprit puissante. La même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts doit établir sa demeure dans nos corps mortels, pour que nos corps mortels, lors de son retour, soient transformés. C'est seulement comme ça que nous pourrons échapper à la colère qui va venir. Il s'agit de savoir, est-ce que nous sommes réellement passés de la mort à la vie? Est-ce que l'Esprit de Dieu peut vivre et habiter en nous? Ou bien est-ce que vous vous reposez sur certaines expériences et certaines sensations, ou bien certaines expériences, ou bien connaissances? Ou bien est-ce que vous demeurez réellement, constamment dans sa présence, avec les fruits de l'Esprit dans votre vie? La patience, l'humilité, les fruits de l'Esprit. Lisez dans Galates 5. Est-ce que vous pouvez supporter que quelqu'un parle de vous? Est-ce que vous pouvez, malgré tout, l'aimer d'une manière que, de tout votre cœur, sous des larmes, vous pouvez prier pour lui? Ou bien est-ce que vous avez des prières égoïstes? Lisez le psaume 119 au verset 136. Vous, peut-être que vous disiez, « Oh, Seigneur, en fait, je ne devrais même pas prier pour lui, mais peut-être que tu vas m'aider à le faire malgré tout. » Oh, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas prier? Et si vous saluez seulement ceux qui vous aiment, et si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites de particulier? Oh, que nous puissions dire, Seigneur, que tu puisses veiller sur mon âme. Veille sur mon âme. Si vous avez trouvé cet endroit, si vous n'avez pas encore trouvé cet endroit de refuge, venez maintenant. Je vais probablement entreprendre mon dernier voyage pour Phoenix. Peut-être que c'est maintenant. Une fois, ce sera la dernière fois que l'évangile sera prêché de cette chair. Peut-être que c'est maintenant. Les choses semblent comme si la fin est très proche. Israël est revenu dans son pays, et à la maison. Le dernier signe qui a été donné. J'ai vu un film il y a quelques soirs. Comment est-ce qu'ils ont été rapportés avec des bateaux et avec des avions? Et on a posé la question à ceux qui sont revenus. Est-ce que vous revenez dans votre pays pour mourir? Ils ont dit non, nous revenons pour voir le Messie. Vous voyez, le figuier est en train de devenir doux. Le dernier signe, quand vous verrez que le figuier deviendra doux et qu'il produit des branches. Oh, vous voyez, le plus vieux drapeau du monde flotte sur Jérusalem. La plus vieille nation. Vous voyez, éparpillé pour un temps, mais rassemblé, Dieu l'a promis. Et la fin des nations sera alors proche aussi. Mais Dieu a promis aussi de rassembler les élus. Et c'est ainsi que les Juifs regardent à la venue du Messie. Un jour, on a demandé à Dieu, est-ce que tu peux oublier Israël? Il a demandé, est-ce que vous pouvez savoir, mesurer la profondeur de la mer et l'auteur du ciel? Et le prophète a dit, je ne le peux pas. Et il a dit, moi aussi, je ne peux pas oublier Israël. C'est la prune de son œil. Le dernier signe. Jésus a dit, quand vous verrez le figuier, produire des branches, des feuilles, alors le temps est proche. Devant la porte, Israël sera rétabli. Ils ont leur propre monnaie. Ils ont tout. Une nation comme une autre, avec sa monnaie etc. et son gouvernement. Et les jours, ou bien alors les jours finaux des nations sont aussi très comptés et sont très proches. Tel que c'était du temps de Sodome. Et on a demandé où est Sarah, ta femme. Comment est-ce qu'il savait quel était son nom, etc. Et il a dit, elle est dans la tente derrière toi et Sarah a ri en elle. Dans la tente. Et l'homme a parlé et a dit, pourquoi est-ce que Sarah a ri? Jésus a dit que quand cela arrivera, alors le temps est proche. Vous l'avez vu, c'est presque passé. La chose suivante, c'est le jugement. Êtes-vous réellement dans l'endroit béni de refuge, du refuge, dans l'amour fraternel, en Christ, que Dieu vous fasse grâce. Si ce n'est pas le cas, cherchez-vous seulement ce qui unit ou bien ce qui divise. Si vous voulez qu'on prie pour lui, levez les mains. Quelque part dans le bâtiment, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Ça c'est bien, ça c'est bien. Encore quelqu'un d'autre. Examinez-vous. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse, sœur. Que Dieu te bénisse là-bas. Que Dieu te bénisse, jeune femme. Que Dieu te bénisse. Oui, que Dieu te bénisse, monsieur. Toi aussi. Oh, c'est bien. Encore quelqu'un. Levez les mains simplement. Vous dites, frère Branham, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Ça, c'est merveilleux. Qu'est-ce que cela veut dire? Si je lève les mains, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que vous savez, vous ne pouvez même pas le faire. Vous n'auriez même pas pu le faire si vous n'étiez pas vivant. Vous voyez, la science dit que, la science prouve que vous vivez, mais elle ne peut pas dire ce que c'est que la vie. Qu'est-ce que c'est? Elle peut prouver qu'on vit, mais elle ne peut pas prouver ce que c'est que la vie. Elle ne sait pas ce que c'est que la vie. Vous voyez, la pesanteur donc, de l'atmosphère retienne vos membres en direction de la terre, tel que vos pieds restent sur terre. Mais vous avez un esprit en vous. Et c'est l'esprit. Il y a quelque chose en vous qui vous pousse à lever vos mains. Jésus-Christ a dit, personne ne peut venir à moi. Si ce n'est que le Père ne l'attire premièrement, et tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi, m'a donné. Êtes-vous pas heureux ce soir d'avoir été donné et de savoir que Dieu est en train d'agir avec votre cœur et qu'une voix retentit en vous et vous dit, venez dans ce refuge. Celui qui veut venir à moi, je ne le rejetterai pas. Celui qui vient à moi, dit Jésus. Vous voyez? Il y a quelque chose qui doit être à côté de vous et pour vous dire, vous devez venir, vous êtes faux, vous devez venir. Peut-être que vous êtes seulement allé à l'église, mais vous n'êtes pas encore dans l'arche. Comment est-ce que vous entrez dans l'arche? Pas seulement par entrer comme ça, non, par un esprit. Tous nous sommes baptisés dans un seul corps. 1 Corinthiens 12, versets 12 et 13. Tous les véritables croyants seront baptisés à l'intérieur, dans ce refuge, par le baptême du Saint-Esprit. Dans ce corps. Et ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Parce que ceux qui croient réellement sont baptisés du Saint-Esprit. C'est ainsi que nous sommes réfugiés dans le corps du Christ. Si vous ne l'êtes pas encore, ne vous laissez pas retenir par Satan. C'est le seul refuge. Être dans le corps du Christ. Ne vous laissez pas retenir. Ne vous laissez pas retenir. Levez les mains. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous brisez, vous allez contre la pesanteur de l'atmosphère. Vous levez votre main. Cela prouve qu'en vous, une décision a été prise. Quelque chose de plus grand que vous-même. Ou bien que la science pourrait l'expliquer. Un esprit en vous qui vous convainc. Et qui dit, accepte-moi, Seigneur. Et vous ne savez même pas d'où est venue cette voix. Mais vous l'avez entendue. Et vous avez dit, Seigneur, fais-moi grâce. Je veux recevoir le Saint-Esprit. Je veux la sûreté. Je veux apporter mes péchés sous le sang. Je veux être scellé dans le corps de Jésus-Christ. Oh, je veux me réjouir de la guérison divine et de la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit, et marcher avec l'agneau, marcher avec l'agneau, être sous un joug avec lui, marcher avec lui. Ça n'a pas d'importance ce que les journaux disent. Nous avons lu ce que la Bible dit et nous sommes sûrs que nous sommes dans le refuge, même si la mort me prend. Ceux qui se sont endormis en Christ, Dieu va les ramener avec lui. C'est toujours sûr, caché sûr. Que Dieu vous bénisse. Il faut que notre vie déjà maintenant soit cachée en Dieu. Colossiens chapitre 4. Et quand Christ, notre vie sera manifestée, nous serons manifestés avec lui. Colossiens chapitre 3. Chapitre 3. Et qu'il y a quelqu'un qui n'aurait pas levé sa main, c'est bien, que Dieu vous bénisse. C'est bien. Ça, c'est merveilleux. Le même Dieu qui vous a convaincu que vous êtes faux peut faire en sorte que vous fassiez maintenant les choses comme cela lui est agréable. Levons maintenant les mains. On peut être béni, etc. Mais la question est à poser. Est-ce que son bon plaisir se repose sur nous? Regardez comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 10. Ils étaient bénis et baptisés dans la mer, en Moïse et dans la colonne de feu, etc. Se nourrissaient de la manne. Mais en plusieurs, Dieu n'avait pas son bon plaisir. Regardez, humiliez-vous. Soyez humbles, venez devant le Seigneur et vous repartirez à la maison justifié. Prions. Père Céleste, c'est quelques paroles découpées ici et là, mais je me suis senti conduit de cette manière de les prononcer. Maintenant, cela a eu lieu et je ressentais que je devais le dire de cette manière. Par exemple, je peux que réciter l'alphabet, mais c'est toi qui dois former les mots. Et c'est ainsi que tu as mis dans mon pauvre cœur ce message. Tu as vu la simplicité et l'humilité de mon cœur. Et ce message a été apporté dans l'amour pour le peuple, pour qu'il puisse trouver cet endroit de repos, et aussi le repos que j'ai trouvé, et aussi d'autres. Pour qu'ils puissent connaître Jésus, selon l'Esprit, le seul sauveur de leur âme, pour qu'ils puissent les conduire et devenir le berger de leur âme. Il s'agit que notre vie soit conduite par lui. Ô Père, prends-les entre tes bras pour qu'ils soient réfugiés et puissent échapper le jugement. Accepte-les, agrée-les. C'est ainsi, comme autrefois, la seule possibilité aujourd'hui, c'est d'avoir la vie qui est dans le sang pour être épargné et échapper. Tu as dit que tous ceux qui croient en toi seront sauvés. Qu'ils puissent réellement croire comme c'est écrit. Car s'ils le croient, texte écrit, ce sera impossible qu'ils ne reçoivent pas la vie éternelle. Car il est écrit, celui qui écoute ma parole. Vous voyez, celui qui écoute ta parole, même si je n'ai pas dit les choses comme ça correctement, mais toi tu peux le faire. Tu as dit, personne ne peut venir à moi si ce n'est que tu l'attires, et celui qui vient à moi, je lui donnerai la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Père, notre Dieu, ils ont levé leurs mains, ils veulent t'avoir, rempli leur cœur de bonté et de miséricorde et du Saint-Esprit, de la vie, de ta vie, que cela soit un soir qu'ils ne pourront jamais oublier, ceci que ce soit le soir où ils acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Et que tu puisses les remplir de ton Saint-Esprit. Pendant que nous avons courbé les têtes. Si vous croyez que Dieu a exaucé mes prières, et que vous voulez que je puisse vous imposer les mains et prier pour vous, pendant que tous ont courbé et gardent la tête courbée et que l'orgue joue doucement, venez peut-être devant. Peut-être que vous voulez venir. Et si vous avez entendu ce grand message de salut et que vous voulez recevoir le Saint-Esprit et sa vie et que vous voulez confesser et venir devant et recevoir le pardon et le Saint-Esprit et vous voulez recevoir la paix, vous voyez, tout ce qui pourra être ébranlé sera ébranlé, mais nous allons recevoir un royaume qui ne sera pas ébranlé, qui ne pourra pas être ébranlé. Ça, c'est Christ. Est-ce que vous ne voulez pas venir devant et que je puisse ici prier avec vous devant? Qu'est-ce que ce serait si cela était la dernière fois où vous pourrez venir? Si c'était la dernière fois. Aujourd'hui, vous avez été averti. Vous voyez, si un jour vous avez des problèmes de cœur et que vous ne pouvez plus venir, et que votre heure a frappé, et que le Seigneur, que le médecin, la médecine devra vous abandonner. Maintenant que vous avez vos sens et que vous pouvez venir, venez. Un jour, vous allez devoir vous tenir pour ce que vous avez entendu. Venez maintenant. Venez maintenant.